I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Jo-Wilfried Tsonga. Bienvenue dans Échange, le podcast du tennis.
La première fois que je l'ai vu, il devait avoir 11 ans et moi 10. On était de jeunes espoirs, mais il avait déjà quelque chose de différent. Il était là pour être fort. Une immense confiance se dégageait de lui, naturelle. Il est devenu l'un des plus grands joueurs de l'histoire du tennis en France, peut-être juste derrière Yannick Noah. Il est en train d'écrire la fin de sa carrière, qu'il nous partage ici sans filtre. Une immense carrière qui n'est pas tout à fait finie. Je m'appelle Antoine Beneteau, bienvenue dans Échange.
Salut Joe, on se voit ou on se tutoie ?
Je crois qu'on se tutoie, hein.
Oui, effectivement, on peut se tutoyer parce qu'on se connaît, il faut le dire, depuis l'âge de 11-12 ans. Et puis, nous avons fait partie du même Pôle France à Poitiers. On a fait quelques classes ensemble. Et déjà, à l'époque, il y a quelque chose qui me marquait. Je sentais déjà une énorme détermination chez toi, quelque chose que personne n'avait dans notre groupe à part toi. Est-ce que toi, tu te souviens d'avoir cela en plus déjà, cette époque ?
Alors moi, je me rappelle pas spécialement avoir ça plus que les autres. Alors c'est vrai que si j'étais rentré là-bas, c'est parce que j'avais vraiment l'envie de devenir un joueur professionnel de tennis. En tout cas, ça m'attirait beaucoup. Ensuite, c'est vrai que ma motivation, je sais pas d'où je la tiens réellement. J'imagine qu'il doit y avoir plusieurs facteurs. J'imagine que c'est mon papa qui me l'a transmis. Mon papa, il est immigré, il est arrivé en France à 23 ans. D'origine congolaise. Il est arrivé ici avec pas grand-chose, pour ainsi dire, même rien du tout. Et donc oui, peut-être que d'une certaine manière, il m'a un peu donné un peu de grinta pour m'en sortir dans la vie. Et puis voilà, et le reste, c'est vrai que j'ai du mal à voir où est-ce que j'aurais pu aller attraper cette motivation, étant donné que j'ai eu une enfance, on va dire, assez cool, plutôt dorée, dans un petit village dans la Sarthe, où j'avais plein de copains, où je m'amusais bien et où il faisait bon vivre. Donc, c'est un peu une énigme pour moi.
Des parents profs, enseignants, ton père professeur de physique-chimie et ta maman enseignante, je crois.
Oui, tout à fait, ma maman enseignante. Alors, ma maman était brigade exactement, c'est-à-dire qu'elle était enseignante au départ, mais elle faisait des remplacements dans tout le département. Mon papa était, lui, professeur de physique-chimie. Donc, c'est vrai que je viens d'un milieu d'enseignants. Où finalement, le partage est important. Et je pense que j'en ai gardé un peu aussi des traces de cette éducation.
Comment Joe, l'enfant Joe Wilfried, est venu au tennis ?
Alors, il est venu au tennis tout simplement pour ne pas trop s'embêter. En fait, je jouais plutôt au football. J'avais mon oncle à l'époque qui vivait à la maison et puis qui m'amenait au foot. J'adorais ça. Et quand les entraînements de football étaient annulés, ça pouvait arriver parce que pas assez de joueurs ou parce que l'entraîneur malade ou occupé, j'allais au tennis avec mon papa qui était initiateur, qui avait passé un petit diplôme pour arrondir ses fins de mois quand il était un peu plus jeune. Et mon papa qui a été seconde série, qui a été classé 15 et qui donnait des petits cours donc dans les villages dans les villages de 200 personnes Et puis, bah voilà, c'était hyper sympa. Il y avait tout le village qui venait autour d'un petit terrain de tennis qui était souvent, voilà, un peu esseulé, dans le village. Et voilà, je prenais part à ça. Et au début, je tapais contre le mur, il me mettait contre le mur. Et puis, quand il a vu que bah, je savais un peu renvoyer la balle, il m'intégrait un peu dans ses cours.
Et pour avoir fait quelques matchs de foot avec toi ou contre toi, t'as gardé quelques beaux restes.
Oui, bah c'est vrai que j'ai toujours. Enfin, je ne sais pas si j'ai gardé des beaux restes. Je crois que j'en ai beaucoup moins des restes. Il reste même plus rien, je crois. Mais c'est vrai que bah, je me suis bien régalé avec le football. J'adore ça. J'adore jouer. C'est pas que je sois un grand fan et que je regarde tout et que je suis tous les résultats, mais j'adore jouer par contre. Et c'est vrai que depuis tout petit, ça a été un peu une frustration de devoir bah, finalement choisir un sport et puis pas pouvoir. Se développer dans un autre. Quand on était à Poitiers, justement, ensemble, on avait l'habitude quand même de souvent jouer au football entre nous.
Ouais.
Mais quand même, les entraîneurs nous disaient, OK, vous pouvez jouer un petit peu là. On nous donnait vraiment des plages, quoi. On n'avait pas le droit d'en faire plus. Voilà, parce qu'il fallait surtout pas qu'on se blesse et qu'on soit out pour le tennis. Donc ça a été une petite frustration quand même. Toutes ces dernières années de ne pas pouvoir trop jouer, et peut-être que le jour où j'arrêterai de jouer au tennis, je m'inscrirai dans un club de village pour juste voilà, me faire un petit kiff.
Cette double culture, l'origine congolaise de ton père, ta maman française qui vient de la Sarthe, en quoi elle a été importante? Est-ce qu'elle a joué un rôle dans ton éducation, dans ton développement?
Alors, un rôle dans mon éducation, ça c'est certain. C'est certain, parce que j'ai quand même grandi. Finalement, avec les deux cultures. Mon papa avait beaucoup d'amis congolais qui avaient fait plus ou moins le même voyage que lui. Donc j'ai baigné un peu dans cette culture congolaise, dans sa musique, dans sa gastronomie, dans son éducation aussi, parce que mon papa avait justement, lui, reçu une éducation congolaise. Donc bah, ce que j'ai reçu aussi, c'est en partie une éducation congolaise. Et voilà.
Comment tu la décrirais, c'est
Elle
dur?
n'est pas toujours tendre. Elle n'est pas toujours tendre. Elle est assez bienveillante, mais elle est assez juste. Assez juste. Assez juste. C'est-à-dire que tant que tu es sur les rails, tout va bien. Et quand tu n'y es plus, bah, il t'aime beaucoup, mais tu vas mourir. Donc voilà, non, non, mais enfin, j'exagère un petit peu. Voilà, mais c'est vrai que mon papa était assez juste et quand même assez strict, il faut être honnête. Voilà, alors ma maman l'était tout autant, hein, mais différemment. Voilà, après, comment ça s'exprime comme ça de but en blanc, j'aimerais bien te dire plein de choses parce que voilà, mais ouais, c'est complètement différent. Pour te donner un petit exemple qui n'est
Ouais.
qu'un petit exemple, c'est que. Bon, en Afrique, on aime bien manger avec les doigts. On dit toujours que ça a beaucoup plus de saveur avec les mains qu'avec une fourchette. La musique, c'est vrai que quand il y a de la musique, encore plus en Afrique, voilà, c'est pas une honte que d'aller danser, que de s'exprimer, que d'être capable de, voilà, de s'exprimer tout simplement. Voilà, il y aurait plein d'autres choses à
Ouais, bien
raconter,
sûr.
de positif comme de négatif, hein. Il y a aussi des choses qui étaient peut-être moins bien, voilà, mais il faudrait prendre un peu plus de temps pour être sûr.
Tes parents enseignants, ils voient le jeune Joe qui a envie de jouer au tennis. C'est pas difficile pour eux de laisser leur fils vraiment se consacrer à sa passion, même s'il est très fort.
Alors, ça n'a pas été très dur pour mon papa, parce que lui, il était venu ici en Europe pour au départ faire ses études. Il devait passer un doctorat en physique-chimie et aussi pour jouer au handball.
Ouais, ancien joueur de hand, exact.
Voilà, ancien joueur de hand, il avait été élu meilleur joueur d'Afrique centrale de handball, parce qu'à l'époque, au Congo, c'était le sport principal, le handball.
OK.
Et donc, il devait. Plus ou moins recevoir une bourse de son pays. Et voilà, c'est un peu la culture de l'Afrique. La bourse n'est jamais arrivée. Du
OK.
coup, il a dû se rabattre sur les études et trouver un établissement qui pouvait l'accueillir. Et cet établissement, c'était au Mans, à l'université du Maine. Voilà, et du coup, voilà.
Ouais, du coup, ça n'a pas été difficile pour eux de te laisser.
Du coup, ça n'a pas été dur pour mon papa
Ok.
de me laisser partir, mais par contre, ça a été très compliqué pour ma maman, qui ne voulait pas, en tout cas, la première année que je parte, même si je n'avais pas été accepté à l'époque à Poitiers. Elle n'était pas trop pour de toute façon que j'y aille. En revanche, la deuxième année, bah, moi, j'avais vraiment fait le souhait de pouvoir partir. Quand j'avais donc 13 ans, j'avais fait le souhait vraiment de partir. Et puis, ma maman s'est pliée à ça et ça a été difficile, mais finalement, je crois qu'elle regrette pas.
Et puis, en plus, tu as assez vite bien joué, j'ai le souvenir. Voilà, tu as très vite gagné en équipe la Copa del Sol, championnat du monde par équipe, avec des joueurs comme Jean-Baptiste Robin, comme Cyril Mocaïège, comme Richard Gasquet. Il y avait Mathieu Moncourt à l'époque dans l'équipe ou pas?
Alors, au tout début, non, mais enfin oui, c'était
Après,
une
il
période
faisait
où je jouais très
partie.
très bien aussi, bien sûr.
Exactement. Et puis, tu arrives aussi dans la catégorie junior où, pareil, tu joues très bien, tu remportes notamment l'US Open junior, tu finis l'année deuxième mondiale derrière Marcos Baghdatis. Tu arrives sur le circuit Futures et Challenger et en fait, tu connais assez vite les blessures. D'ailleurs, je crois qu'au passage, tu m'avais mis une fessée au Futures de La Roche-sur-Yon. Toi, tu t'en souviens pas, tu as fait d'autres matchs depuis, mais moi, voilà.
Ah, mais je crois que c'était soit avant, soit après avoir joué Edichala. Tu vois, je m'en rappelle très bien. T'inquiète pas. Non, en fait, c'est que faut que tu me remémores les choses.
ouais, bien
Et au
sûr,
fur et à mesure
c'est
que tu
mon
vas me les
rôle, c'est
remémorer,
mon rôle.
je vais les
Mais
remémorer.
d'abord, j'ai besoin que tu me remémores. Toi, j'ai le souvenir que tu connaissais assez vite les blessures. C'était quoi ces blessures et comment tu les vivais? Mais déjà, c'était quoi ces blessures?
Alors, quand je suis arrivé sur le circuit pro, alors
Au junior, ça allait?
jusqu'au junior, ça a été évidemment. J'ai eu des petites choses que j'ai grandi assez vite, donc j'avais des petits problèmes, un peu de genou, un peu de périostite, un peu de talon, un peu
Exact.
des choses d'un jeune,
De la
voilà, entre
croissance.
de la croissance entre 10 ans et. Entre 10 ans et 16 ans, en général, voilà, il y a toujours des choses un peu qui sont compliquées. Donc, ça a été jusqu'au junior et ensuite au passage pro, ça a été compliqué parce qu'au moment où, entre guillemets, je commençais vraiment à très très bien jouer, j'étais à peu près 130e mondial. Je me préparais pour mon premier Australian Open dans le tableau. Et là, je me suis fait une double hernie discale. Voilà. Qui m'a clairement stoppé un peu dans mon élan.
Ça a duré combien de temps?
Alors en fait, c'est difficile de mettre une période dessus parce que si je te dis combien de temps j'ai eu mal pendant 6 ans parce que j'étais sportif de haut niveau et que j'ai continué à beaucoup travailler et à beaucoup jouer. Donc ça a été comment dire, j'ai pas vraiment pris. Un an ou 2 ans entiers pour complètement ne plus avoir mal. J'ai continué à essayer de jouer, à essayer de me renforcer, à travailler dessus. C'était un peu l'objectif. Je voulais surtout pas me faire opérer parce que le docteur m'avait dit que mes aînés qui avaient eu ça avaient tous dû s'arrêter. Donc ces aînés, c'était à l'époque, ils m'avaient dit que Guy Forget, Henri Lecomte, Éric Vinogradski, Arnaud Di Pasquale ont
Exact.
tous été stoppés finalement par ce mal-là
Et après l'opération,
et qu'ils ont tous été opérés et qu'après l'opération quand même c'était beaucoup plus compliqué de continuer. Donc j'avais fait un peu ce pari de pas me faire opérer. En revanche, c'est vrai que la douleur a persisté quand même pas mal, mais ne m'a pas empêché de jouer et à vivre finalement presque les plus beaux moments de ma carrière malgré ces douleurs-là.
bon, c'est important, il faut que je pose le bonhomme quand même, puisqu'on va rentrer dans ta carrière. Cinquième mondial au mieux, finaliste à l'Australian Open, deux fois demi-finaliste à Roland-Garros, deux fois demi-finaliste à Wimbledon, trois fois quart de finaliste à l'US Open, finaliste au Masters, vainqueur de deux Masters 1000, médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de Londres, double, où j'ai eu l'immense chance de vivre ce moment à l'intérieur avec vous. 18 titres en tout. Ce qui fait toi le Bien sûr, il y a le grand chelem de Yannick, mais ça fait de toi le deuxième plus grand joueur de l'histoire de l'ère européenne en France. Tu prends une autre dimension dès le début de la saison 2008, en atteignant la finale de l'Open d'Australie. Il faut rappeler aussi au passage que tu bats Murray dès le premier tour, alors qu'il est top 10. Tu détruis Rafa Nadal en demi-finale. Je me suis refait la vidéo, on va en reparler, c'était assez drôle. En trois petits sets, alors qu'il est numéro 2 mondial. Et puis tu perds en finale contre Djokovic. Déjà ce match contre Rafa, est-ce que tu te souviens de tes sensations de joueur de tennis?
Alors, oui, je me souviens, oui, je me souviens bien. Elles sont assez éloignées de ce qui se passe en ce moment. Elles sont assez éloignées. C'est vrai que voilà, j'arrivais un peu à l'apogée, 23 ans, tu commences à acquérir, entre guillemets, physiquement, tes meilleures aptitudes. Voilà, la fougue, la fraîcheur aussi, la fraîcheur, j'étais frais, le fait d'avoir eu une hernie discale, de ne pas avoir joué beaucoup les années précédentes, j'avais énormément de fraîcheur. Et du coup, voilà, je jouais vraiment à l'instinct. J'étais physiquement très très solide. Et voilà, et surtout, j'avais plus peur de rien en fait. Ce que les blessures, la blessure m'avait fait traverser les années d'avant, en fait, m'avait vraiment permis de lâcher sur le côté mental, en fait. J'étais un peu libéré mentalement, je pense.
Mais ok, tu parles des blessures, mais tu vois ce que je disais au début de l'enregistrement, j'ai l'impression que moi, je sais quand je regarde en arrière, alors outre mes limites techniques, physiques, mentalement, je me mettais des barrières, tu vois, je regardais les mecs plus forts que moi, je me disais, bah, j'y suis pas, c'est pas, je ne joue pas le même tennis qu'eux. Mais toi, j'avais, enfin, je me souviens, que ce soit dans les catégories jeunes et après, voilà, quand ça a évolué, bah, tu pétais les barrières les unes après les autres, et en fait, c'était OK. C'est comme si, tu vois, et là, tu le fais quasiment en un tournoi, parce que avant ce tournoi-là, tu commences le tournoi, t'es pas tête de série. Donc ça veut dire que voilà, je crois que tu es aux alentours de la 50e place mondiale. Enfin, tu vois, faut y aller quoi, mentalement, faut se donner le droit.
Bien sûr, faut se donner le droit. Faut se donner le droit. En fait, pourquoi je parle de la blessure? Parce que ça a été comme un détonateur pour moi. Ça a été un détonateur. C'est-à-dire qu'avant la blessure, je suivais mon tennis tranquillement en me disant, oui, bon, je vais peut-être y arriver. Ah, tiens, les gars devant, ah, qu'est-ce qu'ils sont forts. Voilà, mais sans vraiment conscientiser les choses. Et c'est vrai qu'après cette blessure-là, j'ai commencé à me dire, Joe, si tu as réussi à remonter ce défi-là, c'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment de barrière. Il n'y a pas de barrière. Tous les gens qui vont te dire tu ne peux pas sont certainement juste le reflet de ce qu'ils sont eux, c'est-à-dire eux considèrent qu'ils ne peuvent pas. Mais ça ne veut pas dire que toi, tu ne peux pas. Et essayer justement d'éviter ça, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on me disait Joe, tu peux pas faire ça, ou Joe, tu devrais pas faire ça, j'avais qu'une seule envie, c'était d'aller le faire. Et c'était une motivation comme une autre. Et ça me donnait une force incroyable quand j'entendais, quand
Ouais,
j'allais
qui
jouer
pouvait
Rafael
dire des
Nadal en
choses.
demi et qu'on disait oui, il est numéro 2 mondial, il est ci, il est ça, il est ça. Et moi, je disais, et alors? Moi aussi, je vais être sur le terrain avec lui. Et a priori, on est tous les deux, on a tous les deux la balle dans la main au service. Après, voilà, on donne un match et celui qui sera le plus fort ce jour-là, s'en sortira. Et c'est comme ça vraiment que j'appréhendais vraiment les choses, quoi. J'avais vraiment un petit esprit comme ça où on me disait, bah, surtout, faut pas toucher. Et je me disais, et si j'allais toucher juste pour voir? J'étais dans cet esprit-là.
Ouais, et ça s'est matérialisé par un niveau de jeu immense. Je me suis refait la vidéo, c'était juste monstrueux. Et notamment, est-ce que tu te souviens de ce niveau à la volée? revers, tu fais un nombre de volées amorties, de demi-volées, de trucs, mais parce qu'en plus, c'est le Rafa de 2008, donc il a 22 ans, autant dire que du terrain, il en couvrait à l'époque. et là, mais même, il regarde son clan et il dit, mais c'est pas possible. Est-ce que tu te souviens de te dire, mais est-ce que c'était un état second ou, parce qu'en fait, on sent que tu n'es pas dans un état second, mais est-ce que tu te dis, ouais, j'ai eu de la réussite, j'étais dans un jour exceptionnel ou...
Alors, en fait, c'est assez drôle parce que ces derniers temps, je n'ai jamais trop aimé en parler de ce match-là parce que tout le monde m'en parlait. Puis j'avais tendance à dire, mais vous n'avez pas regardé le quart de finale, je volais encore plus contre Yuzny, où c'est vrai qu'on joue au ping-pong, quoi, c'était assez fou. Le quart de finale, il est hallucinant. Personne n'en parle de celui-là, mais pour moi, c'est un de mes matchs les plus aboutis.
Ok.
Parce qu'il y avait de l'enjeu, parce que ce n'était pas Rafael Nadal, donc oui. Voilà. Mais c'est marrant parce que j'en ai pas mal parlé de ce match parce qu'en fait, j'ai fait les choses, mais sans être capable de les répéter. C'est-à-dire que ce match-là, on pourrait considérer que j'ai eu de la réussite, oui, et en même temps, les choses, je les ai faites. Tu ne peux pas avoir de la réussite sur une demi-volée 15 fois, tu vois ce que je veux dire.
Exactement, parce que je parle de 30-40 volées. Là,
on a tout joué au casino, ça n'arrive pas que tu gagnes à tous les coups 15 fois de suite, ça n'arrive pas. Donc, c'est que ce n'est pas de la chance. Donc, à un moment donné, c'est autre chose et j'ai vachement réfléchi à ça parce que depuis que je m'intéresse un peu plus au tennis, depuis quelques années, j'avais vraiment envie de comprendre et de me dire mais pourquoi finalement ce genre de match-là je ne l'ai pas répété plus de fois et en fait je me suis juste rendu compte que je ne l'ai pas répété plus de fois parce que je ne l'ai pas fait en conscience. C'est-à-dire que ce jour-là, j'ai mis des choses en place sans le faire exprès qui m'ont permis finalement d'atteindre mentalement le sommet, en fait. Voilà. D'être infaillible mentalement. Et cette chose-là, je n'ai jamais réussi en fait, à le répéter parce que je ne l'avais pas conscientisé, je ne l'avais pas fait exprès. Je n'avais pas fait exprès.
D'accord.
Pour être très clair, en gros, entre les points, je respirais bien. La façon dont je pensais entre les points me permettait d'effacer tout ce qui se passait avant.
Okay.
Donc, de me permettait du coup d'être toujours dans le moment présent et de donner vraiment 100% de ce que j'avais sans jamais me laisser envahir finalement par une pensée négative,
par l'enjeu.
Par l'enjeu. Par quelqu'un qui était dans les tribunes, je sais pas moi, des trucs qui m'ont rendu fou longtemps, des photographes sur le côté du terrain, parce qu'avec leurs appareils, on ne se rend
ça
pas compte.
Du bruit.
Un bruit qui est assez perturbant. Voilà, en fait, j'ai mis des choses en place, sans le faire exprès, qui m'ont permis d'être à ce niveau-là. Et en fait, pendant toutes ces années, j'ai cherché à retrouver finalement ce niveau-là par l'entraînement.
Ouais.
Alors qu'en fait, c'était juste une approche mentale du truc qu'il me fallait, quoi.
Je pousse ceux qui nous écoutent, si jamais, même juste pour le plaisir, à aller revoir et puis du coup à aller voir aussi le match contre Yuzny, puisque d'ailleurs j'irai parce que bien sûr ça m'intéresse. Et il y a donc après cette finale contre Novak Djokovic. Et cette défaite en 4-7. Et moi, je me suis toujours posé cette question-là. Je l'ai même écrit dans mon livre. Je me suis toujours dit, parce qu'on sent que tu es très fort, on sent que c'est le Novak Djokovic qu'on ne connaît pas aujourd'hui, qui est chirurgical, c'était déjà un monstre physique, mais peut-être pas aussi abouti. On sent que tu lui as fait mal pendant 4-7. On sent qu'il est fatigué, on sent qu'il est usé, on sent qu'il faut que ça finisse pour lui, quoi. Et donc il y a cette balle de break, je crois que c'est à 5 partout au quatrième, où en plus, on le voit qu'il est un petit peu saoulé de coups et il fait ce choix de cet amorti qui est un petit peu raté et que tu vois. Et je me suis toujours dit, parce que bien sûr le choix et la décision se fait en un dixième de seconde, est-ce que ces genres de choix, est-ce que ces points-là, est-ce qu'on y repense, est-ce que on se dit tiens si j'avais fait ça, tiens si Si j'avais mieux géré ça, peut-être que il y aurait eu voilà, une issue différente.
Alors oui, ces points-là, on y pense, et on y pense longtemps, surtout quand on est dans mon cas, parce que moi, je jouais pour gagner un grand chelem, pour être non pas le deuxième joueur français, mais le premier, d'une certaine manière. Hein.
Bien sûr.
Aujourd'hui, j'y ai pensé, mais j'y ai pensé pendant des jours, pendant des nuits, pendant des mois, pendant des années.
Ah ouais.
Ce point-là, je me dis, je gagne ce point-là, tout est redistribué. Je ne dis pas que je gagne, mais 2 ans après, je le bats en 5-7.
Exact.
Et il est cuit au 5e.
Et je C'était en quart, ouais.
Ouais. Et surtout, après ce match-là, je l'ai battu 4 ou 5 fois de suite, hein, Djokovic. Donc, dans des finales, dans des trucs, dans des grands matchs aussi. Donc, je me dis que ce point-là est le point de ma carrière, entre guillemets. Et ce point-là, évidemment, qui m'a hanté. Et avec le recul, c'est vrai que ça fait que quelques années, justement, quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser à tout ça, à essayer de vraiment prendre du recul sur les choses, parce que c'était des trucs, franchement, des fois, je me réveillais la nuit, je me disais, c'est quand même incroyable, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux que ça, finalement, parce que je peux mieux la jouer, je peux faire plein de choses. Mais au final, en fait, ce qu'il faut surtout pas, c'est s'arrêter à ce point-là, en fait.
Mmh.
En fait, si je perds, c'est pas ce point-là, mais c'est plutôt tous ceux qui ont eu lieu avant, qui m'ont amené finalement à ce point-là. Et bon, ce point-là, j'ai fait ce que j'ai pu sur le moment. Il y a même pas d'explication. C'est-à-dire que j'étais là, j'ai décidé de jouer croisé.
Ou croisé.
Il a anticipé croisé, il est resté au milieu, alors qu'il aurait très bien pu dire, je garde un peu mon côté. On a tendance plutôt à couvrir le long de ligne.
Bien sûr.
Il est resté au milieu, il a giclé sur la balle comme il fallait, il a fait la volée parfaite. Voilà, je pense que c'est plutôt en fait ce qui m'a amené à ça, qui devrait amener à une réflexion plus que ce qui s'est passé sur ce moment, sur ce moment-là.
Tu as parlé de cette 2 ans plus tard de cette victoire contre Djokovic en 5-7. En fait, avec le problème avec toi et avec ta carrière, et tu l'as dit, tu as battu Djokovic plein de fois. On pourrait revenir sur plein de moments, mais donc j'ai dû en sélectionner quelques-uns. Et bien sûr, j'ai été obligé de m'arrêter aussi sur cette victoire en 5-7 contre Roger Federer 2011, quart de finale, après avoir été mené de 7-0, ce qui reste là une prouesse exceptionnelle, puisque c'est la première fois que Federer perdait un match en Grand Chelem en menant de 7-0. Pareil, j'ai revu les images de ce match et on ressent cette même chose. Tu es mené de 7-0. Et on sent que dans ton regard, tout est encore possible alors que tu es mené de 7-0 sur le center court de Wimbledon contre le maître. Comment c'est possible ?
Alors ça, en fait, c'est la magie du grand chelem. Il faut savoir que le tennis, il y a deux sports dans le tennis. Il y a les matchs en 2-7 gagnants et il y a les matchs en 3-7 gagnants. Et ma façon d'aborder finalement les matchs en 3-7 gagnants était complètement différente de celle en 2-7 gagnants. On va dire que celle en 2-7 gagnant, c'est un sprint. Celle de 3-7 gagnant, c'est un 10 000 mètres, c'est un 5 000 mètres. Il y a un peu de tactique. Il ne faut pas non plus
faut
plancher tout le temps. Ce n'est pas dit que t'arrives au bout sain et sauf. donc voilà. Et en fait, contre Federer, effectivement, je suis en grand chelem. Je me dis, voilà, je suis à 2-7-0. Mais on a joué. On a joué et on a joué dur. J'ai joué peut-être un des meilleurs tennis de ma vie sur gazon. Il est plus fort que moi, ça fait 2-7-0, mais il faut aller en gagner 3 et c'est encore long. C'est encore long parce que voilà, moi, je me sens bien physiquement et je sens que mon tennis, il ne passe pas, mais il ne passe pas parce qu'en face, j'ai un Roger Federer qui est parfait. Mais que si moi, je reste à ce niveau-là et que lui descend un tout petit peu, il y a match.
Et il y a eu match.
Il y a eu match. Il a baissé un tout petit peu d'intensité. Moi, j'ai réussi à tenir ce que j'avais. Et voilà. Et du coup, ça fait la différence. Et puis, avec l'excitation de jouer Roger sur le central de Wim, je veux dire, pour moi, c'est inespéré. Enfin, c'est pas que c'est inespéré, c'est que même dans mes rêves, j'avais pas rêvé de ça, quoi. Je m'étais dit, bon, tu vois ce que je veux dire ? Je m'étais dit, peut-être un jour, je jouerai Roger, mais je l'avais pas imaginé sur le central, Wimbledon. La Royal Box, le truc, tu rentres avec lui là dans le couloir, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est des moments fabuleux. Hein. C'est des moments fabuleux. Et puis, du coup, avec l'excitation, puis le le fait que j'avais rien à perdre aussi. Voilà, ça a donné ça. Et puis c'est vrai que c'était une émotion assez particulière.
Justement, parle-nous là de cette antichambre du Center Court avec avant de rentrer contre Roger Federer, cette moquette au sol, cette citation au-dessus. Qu'est-ce qu'on se dit?
Ben, c'est vrai que ça fait bizarre. J'ai jamais été vraiment élevé dans le protocole ou dans ce genre de choses. Et là, c'est très protocolaire. On a un garde à l'entrée du vestiaire. Il y a les personnes qui sont censées venir nous chercher pour aller sur le terrain, qui sont en costume, cravate, bien apprêtées, qui nous montrent le chemin avec le bras. C'est par ici, messieurs. Et voilà. Et puis, il y a tout ce chemin, effectivement, dans les couloirs du central qui sont chargés d'histoire. Très classe d'ailleurs, hein. Voilà, Wimbledon quoi.
Ouais, des photos, des trophées dans des vitrines.
Exactement, des trophées dans des vitrines. Voilà, une photo de la reine, ce genre de choses. Voilà, Et puis, tu vas jusqu'au central, mais très protocolaire quoi. Vous vous placez là, vous êtes là, vous marchez dans cet endroit-là, on vous ouvre les portes, on vous demande d'entrer en même temps sur le terrain, ce genre de choses. Voilà, ce genre de choses. Et c'est assez... encore une fois, ça nous place un peu dans un monde... Enfin, moi, en tout cas, ça me plaçait dans un monde hors norme que je ne connaissais pas, parce que ce n'était pas ma norme à moi. C'est Wimbledon, quoi. C'est magique.
Je ne crois pas que ce soit la norme à grand monde.
À Roger, je crois, un petit peu.
Un petit peu plus. Tu les as tous joués en Grand Chelem, tu les as tous battus en Grand Chelem, les monstres. Lesquels ou lequel où tu as posé le plus de problèmes, lequel tu te disais c'est compliqué, comment tu te préparais face à eux?
Bah, c'était de toute façon un challenge parce que ce qui était sûr, c'est qu'en allant jouer contre ces joueurs-là, on sait qu'ils vont nous proposer un tennis, un tennis au plus haut niveau. C'est-à-dire que ça ne m'est jamais arrivé de jouer contre Rafael Nadal ou contre Roger Federer ou contre Djokovic ou même Murray en me disant et que les mecs m'ont donné le match.
Ça, ils passent pas à côté.
Non, ils ne passent pas à côté des matchs. Eux, ils font leur match. Si tu es plus fort que ce jour-là, OK, pas de problème, mais c'est parce que tu l'as mérité. C'est parce que tu l'as mérité. Et donc, c'est vrai que quand j'allais jouer contre eux, ce que je savais, entre guillemets, et je me préparais, entre guillemets, mentalement à ça, c'est à aller au combat parce qu'il n'y avait pas le choix. Je n'allais pas gérer mon effort, je n'allais pas commencer à… Non, non, j'étais à fond du premier point jusqu'à temps de sortir du court, jusqu'à temps de se serrer la main. Et voilà, et que ce soit en perdant ou en gagnant, quoi qu'il arrive, ça a toujours été des bons moments et un challenge assez fou à relever.
J'ai parlé de l'Australian Open, j'ai parlé de Wimbledon. Je ne peux pas ne pas te poser la question sur Roland-Garros et sur ton rapport avec ce tournoi. Je le disais, deux fois demi-finaliste. Qu'est-ce qui est spécial pour vous, j'ai envie de dire nous les Français, mais vous les joueurs français à Roland-Garros, pour toi? En quoi Roland-Garros est si spécial, au-delà bien sûr que ce soit chez nous, mais en quoi c'est différent?
Je crois que c'est spécial tout simplement parce qu'on a le soutien en fait de tout un peuple, de tout un pays. C'est vraiment le moment où la lumière sur le tennis est la plus forte en France. Et du coup, on le ressent. Et on le ressent hyper fort. Moi, ça a été très bizarre parce que tout au long de ma carrière, j'ai été, on va dire, d'un niveau moyen sur terre battue. Mais à Roland-Garros, je jouais mon meilleur niveau sur terre battue. Et j'ai presque envie de dire que presque je me surpassais à chaque fois. C'est-à-dire que même moi, je m'étonnais dans certaines situations et je me disais, c'est fou, il y a qu'à Roland-Garros que ça m'arrive, ça. Bon, ça ne m'est pas arrivé qu'à Roland-Garros, ça m'est arrivé ailleurs, mais particulièrement à Roland-Garros, c'était hyper fort, hyper fort. Et j'ai adoré ce qu'a dit Djokovic en conf de presse après sa finale à Roland-Garros, où on lui parle de la pression, où on lui dit on a l'impression que la pression, bah, ça glisse sur vous, quoi, que comment vous faites pour gérer ça? Et la réponse qu'il a donnée, je me suis retrouvé dans cette réponse-là. Et la réponse, c'était, il a dit, je prends ça comme un privilège d'avoir la pression, parce que ça veut dire que ce que je fais, c'est important. Et la pression donne de l'importance à mes actes. Et ça, voilà, ça m'a, voilà, en tout cas, ça m'a marqué, tu vois, parce que la phrase, je l'ai bien
Ça
retenue.
t'a parlé.
Et ça m'a parlé parce que c'est ce que je vivais moi. À chaque fois, on me disait, oui, la pression. De... Je disais, moi, la pression? Bon,
Bah,
pour déconner, je disais que je la mangeais au petit-déj.
ouais.
La vérité, c'est qu'en fait, la pression, pour moi, c'était un privilège. Je me disais, c'est incroyable, je vais rentrer sur ce court avec tous ces gens qui sont là qui sont venus pour me soutenir. Il y en a d'autres derrière la télé, ils sont au taquet. J'imaginais mes potes en train de sauter sur les canapés, tout ça. Je me disais, mais c'est génial et je vais mouiller le maillot et je vais tout donner pour eux, quoi. Et voilà, et ça, c'est franchement, Roland-Garros, ça a été un truc incroyable pour moi.
C'est vrai qu'en plus, tu n'étais pas du genre à. Tu disais, voilà, la pression, je la bouffe au petit-déj, mais dans les faits, je veux dire, t'es jamais passé à côté. Enfin, t'étais plutôt quelqu'un qui aimait jouer avec le public, qui aimait les grandes ambiances. Tu as très bien joué à Bercy, au Rolex Paris Masters. C'est quelque chose que tu aimes.
Oui, c'est quelque chose que j'aime. Hein, et en fait, on va dire que c'est l'essence même de mon sport. C'est-à-dire que j'ai décidé dans ma tête quand j'étais petit de faire ce sport, en tout cas de m'y investir beaucoup parce que j'avais vu ce match de Butch contre Kulti en Coupe Davis
96 à
à
Malmö.
Malmö 96. Et en fait, je rentrais du foot. J'arrive à la maison, il y a mes parents devant la télé, je me dis, tiens, qu'est-ce qu'ils regardent? Je vais regarder le tennis. Je dis, ah ouais, tiens, je vais regarder le tennis, je regarde jamais, parce que finalement, à la télé, quand on était petit, à part les demi-finales et la finale de Bercy, un peu, enfin, Roland-Garros
Ouais, il n'y avait
et
pas
un peu de
grand-chose
Coupe
d'autre.
Davis, il n'y avait rien d'autre. Donc, on ne voyait pas beaucoup de tennis. Les autres grands chelems, je ne les voyais pas, c'était la nuit. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, pour moi, ça a été un déclic quand j'ai vu cette ambiance, quand j'ai ressenti, tu sais, le petit mal de ventre qu'on a tous quand on supporte un pote,
Bien
quand on
sûr.
supporte son équipe. Quand j'ai vécu ça, quand j'ai vu l'ambiance qu'il y avait, justement cette pression-là, ce stress qu'il y a entre les points, pendant les points, voilà, ça m'a bouleversé en fait. Ça m'a bouleversé et donc c'est vrai que bah, toute ma carrière, et j'ai beaucoup parlé de plaisir et de trucs comme ça, mais parce qu'en fait, je recherchais ce truc-là, quoi. C'était vraiment me retrouver dans une ambiance comme ça, bah, c'était une décharge pour moi d'adrénaline incroyable et c'est ce qui va me manquer le plus et c'est ce qui me manque le plus aujourd'hui quand je joue bah, avec ce Covid.
Donc merci Arnaud Butch.
Donc merci Arnaud Butch. Merci Arnaud Butch parce que franchement, bon, pas que lui, hein. Je pense qu'il faut remercier toute l'équipe. Je pense Yannick aussi qui a fait un boulot, qui a dû faire un boulot énorme derrière pour que les gars soient dans cet état-là, tu vois, parce qu'il y avait quand même une osmose dans l'équipe. On sentait bien, donc c'était voilà, c'était top.
La transition est toute faite avec la Coupe Davis. Et t'as pas été épargné, encore une fois, parce que bah, y a la finale en 2010 où tu dois déclarer forfait pour blessure en Serbie. Moment horrible, toi.
Moment horrible, horrible, bah, horrible, horrible, ouais.
2014, la finale à Lille, donc face à la Suisse, ok, plus forte, mais autre moment horrible pour toi parce que tu te fais mal au bras.
Horrible.
En plus, il y avait une gestion médiatique, voilà, un petit peu chaotique à l'époque. On va pas se cacher. Et puis, 2017, enfin, le Graal. Comment tu as vécu, ces deux moments terribles? 2010-2014, puisqu'en plus, regarde, tu viens de le dire, déclic, rêve d'enfant. Tu vois la Coupe Davis en 96, donc quelque part, c'est peut-être l'aboutissement de ton rêve et tu peux pas y participer.
Non, mais c'est clair que je me projetais là-dessus et je faisais plus que me projeter. C'est-à-dire que je jouais le premier tour, le deuxième tour, le troisième tour, je faisais des simples, je faisais des doubles.
On peut dire que tu t'investissais dans l'équipe de France, ça c'est sûr.
On peut dire que j'y passais du temps, que je m'investissais physiquement, moralement. Ça a été la Coupe Davis pour moi, c'est un peu, mais alors je sais pas à quoi je pourrais comparer ça, mais
Et ça a été un peu un chemin de croix pour toi, ça a été compliqué,
c'est je
ça a
t'aime
été
moi non
lourd.
plus. C'est je t'aime moi non plus.
Ouais.
C'est-à-dire qu'en fait, j'aimais ça, j'aimais profondément ça. Je m'étais fait toute une vision, une image dans ma tête de ce que ça pourrait être, de comment ça pourrait se passer dans l'équipe. Et finalement, j'ai eu la chance de vivre ces moments-là, des moments que j'avais imaginés dans ma tête où je m'étais dit, ça va être incroyable, l'osmose avec mes partenaires, le truc, on va se serrer les coudes, on va y aller, on va aller à la bagarre. Et voilà, et il y avait tout ce que je n'avais pas imaginé. Donc, tout ce qui est un peu plus négatif et qui a été difficile pour moi de gérer.
Des petites déceptions.
Les déceptions, les états d'âme, mes propres états d'âme, les états d'âme des uns et des autres. Tout ça qui était franchement, que je n'avais pas imaginé en tant que gosse. Tu sais, toi, tu vois le truc, c'est magnifique, c'est beau, on est en équipe, on rigole.
Bien sûr.
Mais c'est plus que ça. C'est plus que ça. Et autant j'ai vécu des moments extraordinaires qui ont mis du soleil sur ma carrière, autant j'ai eu le droit à du tonnerre et de la pluie et des moments qui m'ont marqué et qui me marqueront à vie, mais qui m'ont fait grandir en tant qu'homme et en tant que personne.
Mais qui t'ont fait mal.
Mais qui m'ont fait très très mal. Ah oui. Oui, qui m'ont fait mal.
Est-ce que tu te sens de nous parler, de nous donner un exemple d'un moment qui t'a fait mal?
Un moment qui m'a fait mal, alors des sifflets du public. Ça m'a fait très très mal. Parce que quand on joue au tennis, qu'on donne sa vie à ça, je peux comprendre que les gens se disent, bon voilà, c'est des joueurs de tennis, ils gagnent de l'argent, tout va bien. Mais il faut savoir qu'au fond, ce que nous on a dans le cœur, ce n'est pas des billets de banque. On vit comme tout un chacun des émotions, on a des envies, on vit des bons moments, on vit des grosses déceptions et voilà. Et pour moi, on reste des êtres humains. Et pour moi, c'est vrai que c'était dur d'être jugé comme ça sans que les gens sachent exactement de quoi il en retourne et que ces gens puissent avoir le spectre entier de ce qu'on est et de ce qu'on réalise en fait. Et ça, c'est dur en fait parce que c'est comme si tu voulais parler, mais que tu es muet. T'aimerais leur expliquer, mais tu peux pas leur expliquer. Et quand tu te fais siffler, bah voilà, c'est dur, en fait.
Bien sûr.
C'est hyper dur. C'est juste hyper dur. Donc ça m'est arrivé une ou deux fois. À chaque fois, ça a été un crève-cœur, quoi.
Bien sûr.
Alors que moi, j'étais à fond et que si j'allais jusqu'aux blessures, c'est justement parce que je me donnais au 3000%, quoi, dans tout ce que je faisais.
Et puis, donc, je le disais, 2017, enfin le Graal.
2017, c'est encore spécial 2017.
Ah, et pourquoi, en quoi c'est spécial alors?
Et 2017, on a gagné. Ce qu'on nous demande dans le sport, je pense que c'est de gagner. On nous demande de gagner aujourd'hui. On nous demande pas de faire joli, on nous demande pas de faire sympa, on nous demande pas d'être fair play ou de faire ci. On nous demande de gagner. Et j'ai pas été, comment dire, en tout cas mon éducation ne m'a pas, comment dire, j'ai pas été élevé dans ce truc-là de seulement gagner. Oui, il fallait
Gagner
gagner,
avec la manière.
mais il fallait gagner avec la manière et surtout avec l'état d'esprit,
OK.
avec un état d'esprit. Voilà, avec un bon état d'esprit. Et ce que j'ai vécu en 2017, c'est, je pense, la plus grande leçon de ma vie. Voilà, j'ai beaucoup appris de beaucoup de choses dans ma carrière. Le tennis a vraiment été une école pour moi. Mais là, ce que j'ai appris en 2017, c'était assez incroyable. En fait, on a gagné mais ce n'était pas bien.
Ok. C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que bah, moi, j'ai gagné, mais j'avais même l'impression que, bah, que finalement, j'avais la coupe, mais que je ne l'avais pas gagnée. Que je ne l'avais pas gagné, pas parce que je n'avais pas gagné les matchs ou ci et ça. Non, j'avais tout au long de la... Tout au long
De la campagne,
j'ai gagné les matchs, j'ai qualifié l'équipe, j'ai fait en demi, voilà, j'ai fait mon job. En finale, j'ai fait mon job, j'ai remporté un point. J'aurais pu faire mieux, évidemment, mais j'ai remporté un point. Voilà. Mais en fait, l'ambiance qu'on a eue dans ce groupe, tout ce qui s'est passé, toutes les histoires, tous les trucs, bah, c'était pas bien. C'était pas bien, comme le chemin était pas bien. Oui, on a gagné. Oui, c'est ce qu'on nous demandait depuis des années de gagner.
Mm-hmm.
Mais nous, en tant que joueurs, en tout cas moi, en tant que joueur, je ne m'y suis pas retrouvé, en tout cas émotionnellement. J'ai gagné. J'ai fait OK, j'ai gagné, très bien. Mais je n'ai pas eu la joie qui allait avec. J'étais content pour mes coéquipiers. Mm-hmm. J'étais content surtout pour Lucas quand il a gagné le match décisif parce que c'était… Je pense que pour lui, ça a été un moment extraordinaire. Mais moi, sur le haut, vu de tout ce que j'ai vécu, à la fin de la journée, le soir, je ne me sentais pas plus heureux que le matin, en fait.
D'accord.
Enfin, que le matin des premiers matchs.
Il y avait eu trop d'histoires en interne. L'adversité n'était pas assez forte en face. On vous disait la Belgique, c'est pas assez fort.
L'adversité, elle y était, puisque, je veux dire, pour arriver là, on parle… Moi, ça m'a toujours fait beaucoup rire, les gens qui disaient « Oui, je joue la Belgique en finale. » Eh, il y a tous les pays qui jouent.
Bien sûr.
Il y a tous les
pays. S'ils sont là,
c'est qu'ils méritent d'être là. Moi, je ne crois pas en cette histoire de chance dans le sport. Quand tu gagnes 3, 4 matchs, 5 matchs, ce n'est plus de la chance là. Hein. La chance, c'est une balle, deux balles. Allez, un match, ça peut arriver. Des fois, tu as une chance incroyable puisque ça peut jouer à ça, un match. C'est, oui, ça peut être une histoire de chance et c'est même pas de la chance incroyable. C'est un tout petit peu de chance parce que sur un match, une balle, c'est quoi ? C'est, voilà.
Bien sûr.
Mais voilà, et moi aujourd'hui…
Oui, donc on disait, donc c'est pas l'adversité, mais des histoires internes.
Les médias s'y étaient mis, c'est-à-dire en gros, bah, la Belgique, est-ce que c'est… Enfin voilà, ils sont pas très bons… les Français vont gagner. Donc, ils faisaient déjà des pronostics à l'avance. En interne, nous, entre les joueurs, c'était pas si mal, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de concurrence entre bah, ceux qui allaient jouer le simple, ceux qui allaient jouer le double.
Bien sûr.
C'était pas clair. Tout le monde était un peu là. Il y avait plus de joueurs qu'il y avait de place dans l'équipe pour jouer cette finale, finalement. Alors on dit tout le monde l'a gagné, oui, mais en même temps tout le monde n'a pas joué, donc
puis ceux qui la gagnent vraiment, c'est ceux qui sont sur le terrain ou dans l'équipe.
Exactement. Et donc finalement voilà, il y avait beaucoup trop d'état d'âme dans tout ça, quoi.
Ça t'a laissé un goût amer, on le sent.
Alors non, en fait, ça m'a
pas amer, mais
ça m'a fait, oui, alors amer oui et non, parce que j'ai l'impression que toutes les années d'avant, je l'avais gagné. Parce qu'on se donnait à fond, parce qu'il y a eu des fois où l'ambiance était extraordinaire entre nous, les joueurs, et pour moi, ça, c'était déjà des grandes victoires. Des grandes victoires. Mais c'est vrai que ça m'a surtout appris énormément, et que finalement, dans la vie, si tu es riche, entre guillemets, d'une chose qui a été acquise, on va dire, avec un mauvais état d'esprit, en fait, t'es pas bien.
Ouais.
T'es pas bien. Si t'es riche, avec un état d'esprit exceptionnel et que tout a été fabuleux et que tu t'es éclaté sur la route pour y aller, alors ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable et c'est ça qui reste et c'est ça dont on se souvient, c'est ça dont on parle. C'est de ça, quand tu revois un vieux pote que tu n'as pas vu depuis longtemps, avec qui tu as vécu ça, c'est là que les sourires parlent d'eux-mêmes. Enfin, tu vois, c'est ces trucs-là que moi j'aime, quoi. Ces trucs-là que j'aime.
On a parlé, on est du coup un petit peu du tennis français, et je ne sais pas si c'est une une expression qui est heureuse, le tennis français. S'il y a un tennis français où il y a plusieurs joueurs de tennis qui sont français, on peut philosopher, mais l'idée n'est pas de critiquer, mais de réfléchir. Selon toi, est-ce que c'est normal qu'il y ait des cycles? Et je veux dire, déjà, on a parlé de votre génération, les nouveaux mousquetaires. Déjà, est-ce que c'est quelque chose qui t'a saoulé?
Alors,
ou est-ce que c'était juste du marketing et ça t'a pas...
Moi, entre guillemets, c'est sûr que ça... Ouais, je crois, je peux le dire. Hein. Ouais, franchement, si, quand même, ça m'a saoulé, cette histoire.
Ça vous a saoulé d'être en...
Saoulé, et puis nous, tu sais, on a beaucoup d'autocritique. Enfin, honnêtement...
D'autodérision.
On a beaucoup d'autodérision. On est assez critique sur nous-mêmes. On se faisait même des vannes entre nous. On se moquait de nous en disant « Mais toi, t'es un mousquetaire, ferme-la » et tout ça. et franchement, je pense qu'il n'y a aucun de nous à qui vraiment ce truc-là, ça a fait plaisir. Quoi. Bon, déjà parce qu'on considérait qu'on devait en faire un peu plus pour être considéré comme des mousquetaires.
Mm-hmm.
Parce que les mousquetaires, voilà, on peut considérer que c'était ceux qui ont gagné les grands chelems de l'époque.
Mm-hmm.
Voilà. Et puis voilà, nous, on était sur la route, entre guillemets, de notre histoire. On était en train d'écrire notre histoire. On n'avait pas spécialement à l'histoire de quelqu'un d'autre.
C'est vrai.
Et puis, peut-être qu'on nous aurait appelé d'un autre nom, autre finalement que ce nom-là. Ça aurait été peut-être beaucoup mieux reçu, en tout cas pour nous. Peut-être qu'on l'aurait mieux reçu.
Et mieux
vécu. Et c'est vrai que... Voilà, après, on a tous fait des choix. Après, il y a eu des choix médiatiques.
Mm-hmm.
Mais tu sais, on était jeunes, on comprenait pas tout. Nous, tu as des agents qui te disent « Venez, on fait, je sais pas, un petit reportage où on vous appelle les mousquetaires et tout. »
Ouais, là, bien sûr.
Ouais, super. Mais nous, on voulait jouer au tennis. On s'en foutait de tout ça. Et puis, puis c'était, on était plutôt, si tu veux, comment dire, un peu… on était jeunes et un peu influençables.
Mm.
Parce que voilà, ce qui est de bonne guerre, hein, y a pas de problème. Hein.
Bien sûr.
Mais c'est vrai que voilà, ça nous a saoulés. Honnêtement, j'ai même pas peur de parler pour les autres parce que je pense qu'on l'a déjà dit. Voilà, c'est pas un truc en tout cas. Ça nous faisait pas spécialement plaisir. On disait pas trop bien, on nous appelle les mousquetaires.
Bien sûr. Vous êtes tous les quatre des personnalités vraiment différentes. Quiconque connaît un petit peu le tennis et connaît un petit peu, voilà, le sait. Bien sûr, et j'imagine, tu le disais, il y a eu des états d'âme les uns des autres. Est-ce que déjà, entre vous, ça a chauffé?
Ah, c'est déjà arrivé, ouais. Mais pas beaucoup, en fait. Pas beaucoup. Les seules fois où moi, ça m'est arrivé... et c'est même pas dire de même, c'est même pas lever la voix, hein, mais c'est juste dire d'être assez ferme, tu vois. C'était sur les histoires un peu de Coupe Davis.
Mmh.
L'histoire, quand on discutait Coupe Davis, là on discutait sérieux, quoi. On discutait pas, tu vois, on commençait pas à faire des blagues et tout ça.
Ouais.
Tu vois, quand on était entre nous et qu'on discutait de ce truc là, c'était plutôt assez sérieux. Mais c'est vrai que maintenant que tu me le dis, tu vois, j'essaye de réfléchir en fait. Il n'y a jamais eu d'eau dans le gaz entre nous, quoi. C'est-à-dire que ça a toujours été assez fluide. On essayait, entre guillemets, de nous séparer, de faire en sorte qu'on ne s'entende pas très bien pour nous diviser, mais, parce qu'on était quand même une sacrée locomotive.
Ouais.
Mais honnêtement, je n'ai pas le souvenir
d'un clash, de... Voilà. Mais j'ai l'impression que vous avez très bien fonctionné avec les personnalités de chacun. C'est-à-dire que, OK, même s'il y en avait un qui voilà, faisait quelque chose qui pouvait te déplaire, il y avait une vraie intelligence humaine. Il y a une grande intelligence humaine, je trouve, entre vous quatre. Moi, pour connaître un peu mieux Richard, on sait à quel point c'est quelqu'un d'intelligent, de fin, de drôle. Donc voilà, et je sentais ça, et en fait, les choses se faisaient en bonne intelligence, c'est-à-dire, oui, ça reste un sport individuel, on a tous nos intérêts, ils peuvent être différents, on a droit de se dire quand ça chauffe un peu, mais voilà, c'est comme ça, quoi. Je voulais parler de ça parce que là, on sort d'un Roland-Garros ou le tennis français, un esprit assez négatif, je trouve. Et au-delà de critiquer, c'est ce que je disais, j'ai envie de réfléchir. Est-ce que, selon toi, déjà, c'est normal qu'il y ait des cycles ? C'est-à-dire, on a connu une génération exceptionnelle avec vous. Et voilà, derrière, là, effectivement, il n'y a pas quatre joueurs qui sont dans les 10. Bon, OK. Mais est-ce que c'est, selon toi, est-ce que c'est normal ou est-ce que ça veut dire qu'il y a eu un problème dans la formation à un moment donné ?
Alors, pour moi, c'est normal. Pour moi, c'est juste normal. Puis, je vais essayer de l'imager un petit peu. Il faudrait juste que les Suisses, ils aient un numéro 1 et un numéro 3 chaque année. Ce serait compliqué. Je pense que ça... Je pense que évidemment que c'est ainsi, c'est l'histoire de cycle, c'est-à-dire que tu as des très bons joueurs à un moment, et j'ai même envie de dire que souvent les très bons joueurs ne rendent pas service. Si tu as une génération incroyable, ça ne rend pas forcément service à celle qui suit. Parce que la marche est haute.
Qu'on va te comparer.
Parce que les matchs, la marche est très haute, on te compare, on passe les gens encore plus, encore plus, je ne sais pas si c'est encore plus, mais en tout cas. En France, on aime bien dire « Ah, mais tu ne fais pas aussi bien que Yannick Noah. Ah, mais vous ne ferez pas aussi bien que les soi-disant mousquetaires. » Ah, bon. Voilà, donc déjà, on part avec des petits handicaps dans la tête, tranquille. Voilà. Ensuite, je pense que souvent, quand on a des très bons joueurs, on se repose sur ce qui a été fait aussi. On se dit « Ah, on a eu quatre très bons joueurs, on va faire la même chose. » Mais la réalité dans le sport de haut niveau, c'est que quand tu fais la même chose que ce que tu faisais hier, a priori, tu vas baisser. C'est-à-dire que les autres vont te passer devant parce qu'eux, ils innovent. Eux, ils sont devant. Eux, ils regardent devant. Ils changent. Le tennis de haut niveau et le haut niveau sportif, en règle générale, mute de façon constante. Donc aujourd'hui, se contenter de faire des champions comme ils ont fait des champions avec nous, nous, on n'est plus des champions, entre guillemets. Le nouveau champion, au niveau physique, ça va être d'une pointure incroyable. Ça va être au niveau nutritionnel pointu comme ça. Ça va être au niveau médical pointu comme ça. Ça va être au niveau organisationnel pointu comme ça. Au niveau…
Et toi, quand tu étais au top, tu n'étais pas pointu comme ça ?
Non.
Non ?
Non, mais parce que c'était ma génération.
OK.
C'était notre génération. Il y avait… c'était la génération. Moi, je suis sûr que si vous demandez à Roger ou à Rafa ou surtout à Novak, à ton début de carrière, quand il a gagné son premier grand chelem contre moi, est-ce que… Aujourd'hui, il répète exactement ce qu'il faisait quand il a gagné son premier grand chelem. Je ne crois pas. Quand il aborde un nouveau grand chelem, c'est un nouveau Novak Djokovic qui arrive. Avec de nouvelles certitudes, avec de nouvelles façons d'être, une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de pour être plus fort. Parce que dans un sport individuel, on ne peut pas se permettre d'être le même. Il faut évoluer en permanence. Et il n'y a que ceux qui évoluent qui gardent leur niveau. Et j'ai envie de dire, si tu évolues par contre plus vite que la normale, là, tu grimpes. Là, tu vas chercher le truc. Donc pour moi, vraiment, aujourd'hui, c'est clair qu'avoir, c'est une histoire de cycle. Quand tu as une génération qui est très, très forte, il y a un petit temps d'adaptation, souvent, pour derrière. Le but, évidemment, c'est qu'il soit le plus court possible ou voir qu'il n'y en ait pas. C'est magique. S'il n'y en a pas, c'est exceptionnel. En fait, ce qu'il faut voir, surtout, c'est le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui suivent, c'est incroyable. S'il n'y en a pas, d'une certaine manière, c'est normal. Et la normalité, on n'aime pas ça. Nous, on aime le haut niveau, ce n'est pas la normalité. On veut toujours essayer d'aller chercher mieux. Donc c'est normal que les gens se posent les questions. C'est normal que tout ça avance. Voilà, c'est assez logique. Je suis content, là. Au moins, on parle de trucs intéressants.
Génial.
On parle toujours en superficiel, si tu veux. On nous pose toujours des questions qui ne sont pas constructives. On essaye de ressortir un peu des phrases choc pour choquer les gens, pour qu'ils aillent cliquer sur un site internet. Aujourd'hui, parler avec Novak Djokovic de trucs profonds, j'imagine, ça doit être intéressant. Le mec, il a des trucs à raconter, quoi.
T'es sûr?
T'as raconté, et Roger Federer, j'en parle même pas.
T'es sûr? Voilà. C'est l'idée de ce format, c'est de se donner le temps. Est-ce que toi, il y a des choses où tu penses qu'il faudrait que, justement, dans la lignée de ce qu'on vient de dire, de ce que tu viens de dire surtout, est-ce qu'il y a des choses qu'on devrait faire différemment en France, d'un point de vue culturel, d'un point de vue d'entraînement ou de voilà, est-ce que tu as des convictions fortes?
Moi, je pense que revenir, et j'en parle beaucoup en ce moment, je sais, je suis chiant avec ce truc-là, et j'ai ce mot-là à la bouche, c'est revenir à de la bienveillance. Vraiment, parce qu'en fait, les gens sont ce qu'ils sont, et ce qui fait des biens aux gens, c'est de se sentir soutenu, en fait. Je crois que tous nos jeunes, tous nos enseignants, tous les gens, ce dont ils ont besoin, en fait, c'est quoi? C'est de la bienveillance, c'est de se sentir soutenu, de sentir que y a des gens qui sont prêts à, voilà, à aider autour d'eux, qui sont prêts à donner du temps, de l'énergie. Je pense que se réunir, opposer ses idées, mais avec bienveillance. Pas parce que opposer ses idées, c'est le meilleur truc au monde. Il en sort que du bien de ça. Mais si c'est fait vraiment dans un bon état d'esprit, c'est pas opposer pour dire moi je suis le plus grand, moi je suis le plus fort, moi j'ai raison. Non, c'est vraiment dire voilà, confronter ses idées et puis en ressortir le meilleur. Voilà, et je pense que ça aujourd'hui, dès qu'il y a beaucoup trop d'intérêt à l'intérieur de ces discussions, en fait, chez les uns ou chez les autres, c'est très difficile à avoir. C'est très difficile à avoir. Et voilà.
On sent que tu es dans une démarche que tu as envie de redonner, que tu as déjà commencé à le faire, avec de partager avec notamment ton académie, la All In Academy, que tu as co-créé, monté avec Thierry Assion. Est-ce que tu penses que tu vas avoir envie de coacher après?
C'est une bonne question, mais alors moi, en fait, bon, déjà, moi, je redonne rien, ou j'ai même envie de dire je donne rien du tout. Moi, je partage.
Ok. Voilà.
C'est-à-dire que ce que j'ai, je l'ai, c'est pour moi. De toute façon, voilà. Ce que je veux dire, c'est que ce que je vais partager oralement, je vais te le... On peut considérer que je vais te le donner, mais je vais le garder aussi. Donc,
bien sûr.
Je donne rien.
Donc, tu le partages.
Je le partage. Il n'y a pas de problème.
Tu as raison, les mots sont importants.
Eh, les mots, des fois, veulent dire beaucoup de choses.
Bien sûr.
Aujourd'hui, je le partage. Et je le partage justement dans ce but-là d'être bienveillant et de me dire que si je peux aider quelqu'un à vivre des trucs incroyables comme moi, je les ai vécus, ça me fait hyper plaisir. C'est aussi un peu égoïste de ma part parce que c'est pour mon plaisir à moi.
Parce que tu prends du plaisir, ouais.
Honnête, hein, quand je monte une académie, que j'ai les petits qui sont là, ils jouent, quand ils jouent bien, je prends des décharges d'adrénaline. Hein, voilà, là, bah, Hugo, on a fait pas mal de trucs cet hiver. Il y a une équipe autour de lui en place, machin, tout ça. Il fait péter. Moi, je prends mes petites décharges. Je suis derrière mon écran à regarder sa finale. Je suis comme un ouf.
On parle d'Hugo Humbert qui vient de remporter le tournoi de L.
Exactement. On parle d'Hugo Humbert. Voilà, moi, je suis comme un dingue. Tu vois, à la limite, je me mets à genoux. J'ai l'impression de vivre la Coupe Davis. Donc voilà. Donc, moi, oui, partager, j'ai envie de le faire.
Ok.
J'ai envie de le faire. Alors, après, coacher, c'est un grand mot parce que coacher, il faudrait que je le fasse pour être honnête. Et je vais l'être pour être honnête, faire 45 semaines ou 40 semaines comme certains entraîneurs l'ont fait avec moi par année. Aujourd'hui, je m'en sens pas la capacité organisationnelle avec ma famille, tout ça. Je voilà. Aujourd'hui, j'ai pas la force de faire ça. Aujourd'hui, okay. J'ai la force de partager mon expérience. Éventuellement de passer un peu de temps sur le terrain avec les jeunes, mais pas de pas faire l'entraîneur. Moi, j'arrive aussi à dissocier le coach et l'entraîneur.
Ouais.
T'as vraiment l'entraîneur qui est là au quotidien pour moi, qui est là, qui vient taper à ta porte le matin, qui est là H24 en fait.
Bien sûr.
Et presque 40 semaines sur l'année, il va être avec toi. Tu le vois plus que ta famille. Et puis, tu as aussi qu'on pourrait appeler le coach que tu peux avoir aussi à l'extérieur, que moi j'ai eu d'une certaine manière avec, avec certaines personnes que je pouvais appeler pour qu'ils me conseillent sur, sur une chose ou sur une autre. Où finalement, je pouvais peut-être prendre un peu de temps avec eux à un moment donné sur le terrain, juste une fois, deux fois, une semaine par-ci, par-là.
Ouais.
Pour l'instant, je ne me vois pas entraîneur. Je me vois coach. Non, mais je me vois partager mon expérience.
Bien sûr. Tu as parlé de ça. Tu disais voilà à quel point c'est compliqué de partir 40 semaines sur circuit. C'est dur de trouver l'équilibre entre sa vie de joueur de tennis et sa vie d'homme.
Je pense que c'est le combat de chaque joueur de tennis. Je pense que tous les joueurs de tennis passent par en tout cas par ce questionnement. Peut-être qu'il y en a qui arrivent à s'épanouir à 100%. Mais je pense que c'est un questionnement que chaque joueur de tennis se pose et doit se poser.
Et doit Ça a été poser. Compliqué pour toi ?
Oui, compliqué. Je dirais pas compliqué en fait. Pour moi, ça a été assez simple dans le sens où je le vis bien, mais ça a été quand même une remise en. Enfin, ça a été des questionnements permanents tout au long de ma carrière pour justement arriver à être bien dans mes baskets et en même temps à essayer d'être performant.
C'est quoi l'exemple d'un questionnement ? C'est est-ce que je vais à cette soirée voir mes copains et alors je dois pas y aller ?
C'est exactement ça. C'est est-ce que je m'autorise une soirée dans la semaine où je suis avec mes copains ? Est-ce que qu'est-ce que je fais pendant mes vacances ? Est-ce que j'amène ma famille avec moi sur les tournois ? Est-ce que mon entraîneur, il faut que ce soit quelqu'un qui soit avec qui je m'entende bien parce que je passe 40 semaines avec lui dans ma vie ? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui je dois vraiment bien m'entendre ? Ou est-ce que c'est quelqu'un juste qui est là pour, entre guillemets, la performance et qui t'entraîne comme un robot pourrait le faire ? Est-ce que c'est tous ces questionnements qui n'ont pas vraiment de réponse
définitive ?
Il n'y a pas de réponse définitive. En fait, la seule réponse définitive, c'est soi-même. Et chaque joueur, quelque part, deal avec ce truc-là. Voilà. Et je pense que
parfois, tu peux faire le choix de faire la soirée avec tes copains et puis une autre fois, tu ne vas pas le faire.
Exactement.
Par exemple.
Chaque joueur un peu deal avec ce truc-là. Il y a des joueurs qui ont plus besoin, par exemple, de voir leurs amis, d'être avec leur famille. C'est un équilibre pour eux. C'est comme ça qu'ils se sentent bien. Si tu leur enlèves ça, peut-être qu'ils sont moins bien, ils sont moins performants. Voire même ils ont envie d'arrêter de jouer parce qu'ils disent wow, ça m'intéresse pas, moi je j'ai l'impression que je passe à côté de ma vie. Donc voilà, et moi ces questionnements là oui je les ai eus clairement et voilà, mais je me sens bien donc
Et puis maintenant tu es père de famille, t'attends même un deuxième.
J'attends un deuxième ou une petite deuxième.
Ok.
Je ne sais pas encore. On aimerait bien savoir, mais on se garde la surprise.
Ok, d'accord. Et en quoi ça change, je ne sais pas, le joueur de tennis ou l'homme que tu es, de la paternité ?
Oui, beaucoup. Ouais, ça aussi, ça, je pense qu'on apprend beaucoup à son insu. Parce que quand on le fait, on ne sait pas qu'on va apprendre plein de choses, qu'il va se passer plein de trucs. Mais ça fait prendre beaucoup de recul, surtout sur les choses. Beaucoup de recul, mettre en perspective l'importance des choses aussi. Parce que tout d'un coup, c'est les choses assez simples qui deviennent importantes. C'est-à-dire que la santé, un sourire sur un visage, il n'y a plus que ça qui devient important. Et le reste, ça, c'est pas que ça devient pas important, c'est que ça passe au second plan.
Est-ce que tu leur suggéreras une raquette de tennis au moment de découvrir des passions ?
Mon premier, il découvre déjà, il a 4 ans. Donc, j'ai fait un truc qui n'était pas bien. C'est que je me suis dit, je sais pas si j'ai envie qu'il joue au tennis, donc je vais plutôt éviter qu'il joue au tennis.
Ok.
Du coup, il est fan de tennis.
Ok.
Du coup, tu vois, alors moi, il sait même pas que je suis joueur de tennis, presque. Mais par contre, il voit Tsitsipas dans les. À un moment donné, il est dans un tournoi, il voit Tsitsipas, il dit ah, c'est Rafael Nadal et tout. Il est comment? Mais du coup, il est marrant parce que je faisais presque exprès de lui interdire de jouer avec sa raquette et du coup, en cachette, il allait jouer avec sa raquette. Et du coup, il aime bien jouer au tennis. Voilà, j'ai essayé de le mettre au foot, mais il s'attachait à ma jambe en disant le monsieur, il parle trop fort. Donc voilà, donc non, mais j'essaye de lui faire un peu tout. Je trouve que c'est tellement important finalement, que ce soit le sport, la musique, les activités, voilà, outdoor, manuelles, tout ça, que voilà, pour moi c'est important. Donc de toute façon, ils seront presque un peu obligés, d'une manière ou d'une autre.
On arrive vers la fin de cet échange. Joe, on a parlé de ton immense carrière, on parle un peu de ta vie d'homme. Est-ce que tu sais au fond de toi quand tu veux finir ?
Bah, c'est bien le problème. C'est qu'au fond de moi, j'en ai aucune. Enfin, en fait, au fond de moi, j'ai aucune certitude du moment. En fait, au fond de moi, j'aimerais ne jamais arrêter.
Ok.
La vraie vérité, c'est ça. Au fond de moi, j'aimerais ne jamais arrêter. Mais c'est vrai que je commence à avoir les signes. Je commence à avoir des signes qui ne trompent pas. Bon, bah, les premiers, c'est physique.
Ok.
Physiquement, parce que c'est de plus en plus difficile finalement d'être compétitif.
Tu te sens lent ou tu as mal, tu as des douleurs ou les deux?
Ah, les deux, c'est assez lié en fait. Parce que quand tu as mal, tu t'entraînes moins bien. Quand tu t'entraînes moins bien, bah, tu es plus lent. Et ainsi de suite. Et puis avec l'âge, bah, tout va moins vite. On récupère moins vite. L'entraînement est un peu moins efficace. C'est-à-dire pour le même entraînement, bah, tu n'as pas un résultat aussi efficace. Voilà. Et donc voilà. Donc il y a pas mal de signes qui font que. Et puis, bah, on va dire, la première jauge, c'est les résultats. Et à un moment donné, bah, tu vas sur le terrain. Avant, je revenais de 3-4 mois sans jouer. Je gagnais tout de suite. Bah là, je ne gagne pas depuis un moment. Donc, bah, voilà. Tout ça, c'est des petits signes qui font que bah, ça me dirige tranquillement, entre guillemets, vers. Ça va me forcer à un moment donné à prendre une décision. Alors, c'est une décision que je n'avais pas envie de prendre strictement, c'est-à-dire de me dire du jour au lendemain, bon, bah, la semaine prochaine, j'arrête. Non, j'ai besoin de mûrir le truc. J'ai vécu tellement de choses incroyables à travers tout ça que j'ai besoin un peu de digérer. Le fait que ce soit la fin. Alors, est-ce que la fin, elle est sur un an? Est-ce qu'elle est sur 6 mois? Est-ce qu'elle est sur plus que ça? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai besoin encore un peu de digérer pour vraiment prendre une décision.
Ça fout les jetons?
Alors, honnêtement, pas trop, parce qu'il y a beaucoup de choses dans mon métier qui aujourd'hui sont difficiles pour moi, et notamment de quitter ma famille. Et ça, c'est plus fort que tout, honnêtement. Ça devient vraiment très, très difficile. Les voyages sont difficiles après 20, 25 ans de voyage. Je veux dire, je prends toujours pas le jet privé pour aller ici et là, même si ça a pu m'arriver une ou deux fois dans ma carrière, parce que pour des raisons d'ailleurs sportives. Voilà, aujourd'hui, je voyage encore dans des conditions, entre guillemets, voilà, que je supporte plus trop, qui sont, bah, voilà, tu fais tes valises 2 fois par semaine, tu sais jamais ce que tu vas faire demain, tu peux rien prévoir. Voilà, alors, je me plains pas de tout ce que j'ai fait dans ma carrière, c'était génial, mais je commence à arriver à un âge où je me dis, voilà, j'ai le droit aussi un peu de profiter et puis de faire les choses un peu différemment.
Eh ben, merci beaucoup, Joe, pour ce beau moment.
Ouais, c'était sympa. On se refait ça quand tu veux. Bah, pas forcément sur un podcast, mais autour d'un verre, d'un café, de n'importe quoi.
Avec plaisir. On a enregistré cet épisode juste avant Wimbledon. Donc, gros merde pour Wimbledon. Voilà, on en a parlé dans l'épisode. Tu nous as fait rêver là-bas. Et on espère, vraiment, vraiment, on espère que c'est pas fini et que ça va être reprendre dès cette édition-là, vraiment.
Merci Antoine.
Merci Joe, et puis à très bientôt.
À bientôt.
Quand ce sera vraiment fini, il nous manquera. C'est toujours la même chose, on voudrait que ça dure un petit peu plus. Cela fait maintenant 2 ans qu'Échange existe, et je tiens particulièrement à vous remercier pour votre fidélité. Continuez à m'écrire, à partager sur les réseaux sociaux et à me montrer votre soutien en mettant 5 étoiles sur les plateformes de diffusion. Merci aussi au Studio Load, à Laurent Aquenin et Adrien Noël pour leur professionnalisme. À très bientôt pour un prochain numéro d'Échange. Et d'ici là, eh ben prenez soin de vous.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.